18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Serge Jayat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites un métier formidable, vous financez des films et des séries. Et vous avez permis que vivent, par exemple, parmi ceux qui peuvent intéresser particulièrement nos éditeurs sur Radio Classique, Des Hommes et des Dieux, film magnifique, ouais. Le Passé d'Asghar Farhadi, Les Garçons et Guillaume à Table, La Palme d'Or...
Dipan,
voilà,
Palme d'Or de l'an dernier.
Jacques Audiard, voilà, Malout, enfin bref, on peut pas tous les citer. Le Bureau des Légendes, oui. Sur Canal+.
Sur Canal en ce moment.
Excellente série. Marseille sur Netflix, qui a été un peu éreinté par la critique, mais qui a très bien marché, je crois.
Ça a non seulement très bien marché, mais Netflix a commandé la saison 2. Voilà. C'est que c'était probablement un peu mieux que ce que les critiques en ont dit.
Voilà. Faut jamais faire confiance aux critiques. Alors, Serge Jayat, et vous êtes aussi romancier, puisque vous avez écrit L'Empire en héritage, qui a reçu le prix des lecteurs Notre Temps et qui raconte, alors c'est plein de fantaisie, c'est très documenté sur le plan historique, ça parle de l'Aiglon, c'est-à-dire Napoléon II,
oui.
Le fils de Napoléon Ier et petit-fils de l'empereur d'Autriche.
Exactement.
Voilà, et donc qui est mort à l'âge de...
Il est mort à l'âge de 21 ans.
21 ans, c'est ça.
Dans la vraie vie, parce que chez moi, il se passe tout à fait autre chose.
Voilà, et en fait, ce qui vous a donné l'idée de ce livre, c'est Mozart.
Oui, en fait, ce sont deux choses. La première, c'est un énorme attrait que j'ai pour Napoléon. En allant voir le tombeau de Napoléon, je ne sais pas si vous avez été voir le tombeau de Napoléon aux Invalides.
Aux Invalides, bien sûr.
Vous avez cette espèce d'énorme tombeau, et puis tout autour, vous avez des petites chapelles dans lesquelles il y a des tombes d'autres personnes. Et puis il y a la tombe de Napoléon II que Hitler nous a renvoyée dans des conditions rocambolesques en 1940. Et là, vous voyez par terre juste une dalle, une pierre tombale, où c'est marqué Napoléon II, roi de Rome. Puis il y a une statue dessus, donc vous levez les yeux pour voir à quoi il ressemblait cet aiglon. Et en fait, c'est la statue de Napoléon Ier, un empereur romain qui trône sur la tombe de son fils. Et donc ça m'a beaucoup interpellé sur le destin de Napoléon II. Et il se trouve qu'en même temps, je lisais un roman sur le fils aîné de Mozart, François-Xavier Mozart. Et François-Xavier Mozart était compositeur, comme vous le savez. Sa vie a été pourrie par le génie de son père. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent aller écouter du François-Xavier Mozart. Hein, c'est disponible sur Spotify, sur Deezer. Et vous allez voir que c'est plutôt de la bonne musique. Son problème, c'est qu'elle n'est pas géniale. Et donc, il a vécu un enfer toute sa vie. Et en en-tête de ce livre, il y a une citation de Georges Bernard Shaw qui dit « Qui aurait pu répondre à ce qu'on attendait du fils de Mozart ? Probablement pas Mozart lui-même. » Et j'ai trouvé que ça répondait exactement au destin brisé de l'Aiglon et de Napoléon II.
Thank you.
C'est le Kyrie du Requiem de Mozart, dirigé par Philippe Hervaigue, une œuvre que vous aimez tout particulièrement, Serge Ayat.
Oui, parce que je suis en fait venu très tard à Mozart. Quand j'étais plus jeune, on a été initié, mon frère, ma sœur et moi, on a été initié très tôt à la musique, on a fait du piano. Et en fait, moi j'avais une passion pour Beethoven. Et je trouvais que tout ce que j'entendais de Mozart, qui était petite musique de nuit, la marche turque, etc., je trouvais ça un peu niais, mièvre, et je préférais la force brute de Beethoven, en fait. Et il a fallu, dans le milieu des années 80, et ce qui nous ramène au cinéma, il a fallu que je découvre le film Inouï de Miloš Forman pour comprendre vraiment que Mozart était un génie. Et qu'est-ce que ça voulait dire être un génie par rapport à quelqu'un de normal ? Et là, en particulier dans le morceau qu'on vient d'écouter, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a même de la dramaturgie dans ce morceau. Parce que on démarre en étant tout en retenue et en faisant comme si presque on remontait en arrière pour mieux pouvoir se lâcher après. Et donc, vous voyez, le début est très retenu, un peu comme un barrage, et puis à un moment donné, ça explose et tout coule de manière très fluide et ça se lâche avec une fluidité incroyable. Voilà, donc...
Vous êtes un écrivain tardif, Serge Ayat ?
Très tardif. Très tardif parce que dans ma famille, les études, c'était très important. Avoir une belle carrière et faire des choses entreprenantes. On est quasiment que des entrepreneurs dans ma famille. Et ça, c'était essentiel, beaucoup plus que écrire, qui était plutôt un passe-temps. Alors en fait, on lisait beaucoup dans la famille et puis on était très férus d'émissions littéraires. Mais la réalité, c'est que c'était comme lecteur et pas comme auteur, parce que auteur, c'est pas un métier.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à des personnages comme le fils de Mozart ou comme le fils de Napoléon Ier ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que vous voulez réparer quelque chose à travers eux ? Réparer, oui. Puisque l'Aiglon lui-même, à la fin de sa vie, a dit entre mon berceau et mon tombeau, il y a un grand zéro. Voilà. Donc c'est tragique. Et vous qui êtes aussi un homme de chiffres et de lettres, vous avez voulu réparer cette injustice en lui donnant un destin qu'il aurait pu avoir. Mais est-ce que, à travers lui, c'est votre propre destin que vous cherchez aussi?
Alors, je ne sais pas si c'est le mien, mais vous avez raison quand vous dites que j'ai voulu réparer quelque chose. C'est-à-dire que quand on regarde le destin de Napoléon, qui est exceptionnel, et quand on regarde le destin du fils, qui, malgré lui, a été complètement vide... Donc pour nos auditeurs, je rappelle juste que quand Napoléon abdique en 1814, Marie-Louise, qui était la fille de l'empereur d'Autriche, repart avec le petit Aiglon sous le bras, elle repart chez son père, l'empereur d'Autriche. Et là, elle va refaire sa vie, elle a 23 ans, donc elle part refaire sa vie, et François, c'est comme ça qu'il s'appelle, est emprisonné au château de Schönbrunn. On va faire en sorte qu'il soit élevé comme un prince autrichien, d'ailleurs il va s'appeler Franz. On va tout lui cacher de son père. Alors, il va pourtant savoir qui est son père, mais le fait de le savoir sans vraiment connaître les détails vont faire que ça va l'écraser et le fasciner complètement. Et puis surtout, on va faire en sorte qu'il n'ait jamais aucune fonction nulle part. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il attrape une tuberculose à 21 ans, on va le laisser mourir parce qu'il est très encombrant sur l'échiquier politique après avoir eu un destin nul. Et l'écart entre le destin du père et le destin du fils m'est apparu insupportable. Et donc, ça m'a intéressé de créer une confrontation entre le père et le fils. Quand on a un père génial et qu'on a un ado qui se cherche, comment on fait pour exister ? Comment on fait pour trouver un sens à sa vie et vivre la vie qu'on s'est choisie et pas la vie que d'autres ont projetée sur vous?
Qui est votre père, Serge Ayat? Est-ce que c'est un héros dans vos yeux?
Oui, certainement. Certainement, c'est une figure très forte dont j'ai toujours eu l'impression qu'il était extrêmement solide et que, quoi qu'il arrive, lui serait en mesure de nous protéger. Et voilà, et ça a toujours été quelqu'un d'un rempart contre toutes les difficultés potentielles de la vie. Mes parents viennent de Tunisie, donc ils sont arrivés très jeunes en France, et en fait, ils sont vraiment partis de zéro. Donc, ils ont réussi à construire la famille qu'ils ont construite parce qu'il y a eu les Trente Glorieuses, mais aussi en travaillant énormément. Et en fait, aujourd'hui, leurs enfants, petits-enfants, leur doivent beaucoup.
Est-ce que vous tournez en Tunisie vous-même?
Non. Non. Alors moi j'y suis retourné. J'y suis retourné avec ma femme parce que elle voulait voir d'où venait ma famille, et j'ai proposé, et ça a été un de mes grands regrets, j'ai proposé avant les derniers attentats, j'ai proposé qu'on loue un minibus et que ce soit mes parents qui fassent une visite guidée à mes enfants, à mes neveux et nièces.
De c'est dans quelle région?
Tunis.
Tunis, c'est à Tunis.
Tunis même. Et voilà. Et en fait, ça n'a pas eu lieu, et je suis pas sûr que ça puisse avoir lieu un jour.
Alors, est-ce qu'on peut dire, Serge Ayat, que vous vous êtes immergé vraiment dans le destin de l'Aiglon, de Napoléon II, jusqu'à aller à Sainte-Hélène, c'est-à-dire là où est mort l'empereur, oui. Napoléon Ier.
Oui.
Et vous imaginez une rencontre entre l'Aiglon et l'Aigle.
Exactement. C'est-à-dire que, en fait, de ce destin totalement vide de l'Aiglon, j'essaye de le transformer en voyage initiatique pour lui permettre d'accomplir ce qu'il aurait pu être. Et donc, je le fais s'évader de Schönbrunn. Dans la réalité, il y a eu des tentatives d'évasion hein, qui n'ont jamais abouti, mais il y en a eu. Et donc, je le fais s'évader de Schönbrunn. Là, il va arriver à Paris, dans ce chaudron malodorant, bouillant et très hostile. Il va faire la connaissance de son cousin, Louis-Napoléon. Et il va se rendre compte que celui des deux qui a pris les capacités du père, eh bien, c'est le cousin, et pas lui. Et c'est un ado qui se cherche, il sait plus où il en est. Et pour découvrir qui il est obligé de se confronter à sa statue du commandeur. Et là, j'emmène tous nos lecteurs à Sainte-Hélène, où j'ai écrit la dernière partie du roman.
Et ça vous a fasciné, Sainte-Hélène, qui appartient tout
aux Anglais. Oui, ça, donc c'est une île britannique,
ouais.
Et c'est une île très difficile à atteindre. Puisque pour aller à Sainte-Hélène aujourd'hui, il faut prendre un avion pour aller au Cap, et puis ensuite, vous avez 5 jours et demi de bateau, au cours desquels vous ne croisez personne, là où du temps de Napoléon vous croisiez plein de gens, parce que c'était sur la route des Indes et c'était une escale de la route des Indes. Mais aujourd'hui, vous ne croisez plus personne, et vous faites 5 jours et demi de bateau dans l'isolement le plus total. Et puis là, à l'aube du dernier jour, à 6 heures, on vous convoque sur le pont. Vous n'avez rien vu depuis 5 jours et demi. Il fait nuit, et le jour commence à se lever, les brumes se dissipent, et vous voyez cette île forteresse qui apparaît devant vous, avec des falaises noires, abruptes, qui tombent dans la mer. Le bateau s'approche, vous commencez à distinguer la capitale, qui est en fait une petite langue de terre échancrée, totalement compressée, étranglée entre deux massifs, entre deux falaises, deux massifs montagneux. Et là, le bateau s'arrête. Il ne peut pas aller plus loin, parce que le port est trop petit. Et comme du temps de Napoléon, vous débarquez en chaloupe. Et là, vous arrivez sur cette île d'un autre temps. Il n'y a pas de téléphone mobile, il y a un internet comme il y a 25 ans, il n'y a évidemment pas de carte bleue, et cette île est donc restée extrêmement isolée. Alors un aéroport est construit, a été construit pendant ces 3 dernières années, et le premier vol devait avoir lieu le 21 mai, puisque l'île a été découverte le 21 mai 1502. Donc là, le premier vol devait avoir lieu le 21 mai 2016, et il a été reporté parce que les conditions de sécurité n'ont pas été jugées satisfaisantes. Donc aujourd'hui, il faut toujours prendre le bateau pour aller à Sainte-Hélène.
Tout appartient à la couronne britannique, ou il y a certains quartiers, certains territoires qui sont à la France?
Alors, il y a 3 domaines français. Il y en a 2 qui ont été achetés avec grande difficulté par Napoléon III en 1858. Il a mis 6 ans pour les acheter. Il les a payés 180 000 francs de l'époque. Alors là, on trouve la maison de Longwood, qui est la maison de Bonaparte avec ses dépendances, Napoléon Bonaparte avec ses dépendances. Et puis, il y a tout le parc de la tombe, puisqu'il a été d'abord enterré à Sainte-Hélène, avant que ses cendres soient ramenées en France en 1840. Et là, c'est un parc absolument magnifique, très luxuriant. L'île, de toutes les façons, est d'une beauté incroyable, avec des mélanges de végétation, à la fois désertique, volcanique, alpine, et luxuriante tropicale, comme l'est ce parc autour de la tombe, justement. Et il y a un 3e domaine, qui est la première demeure dans laquelle Napoléon a dormi quand il est arrivé à Sainte-Hélène. Il a passé 3 mois en attendant que la maison de Longwood soit prête, dans une dépendance de la maison du directeur de la Compagnie des Indes, puisque l'île appartenait à la Compagnie des Indes. Et donc là, les héritiers de cette personne ont fait don à la France de ce petit pavillon.
Serge Ayat, c'est passionnant. Je suis sûr que nos auditeurs sont également passionnés par tous vos détails et toute votre passion que nous sentons. Nous allons vous découvrir au travers de vos petites madeleines musicales juste après une page de publicité.
Vous écoutez Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Serge Ayat, merci encore d'être là ce soir en direct dans Passion Classique. L'Empire en héritage, donc ce livre qui raconte l'histoire imaginaire de l'Aiglon. Donc il paraît en livre de poche, en collection de poche.
Chez Pocket.
Voilà. En octobre prochain. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que, alors je vous ai demandé un micro fermé, évidemment ça va faire un film, et ça a l'air d'être compliqué, alors que s'il y en a un qui peut tout en la matière, c'est quand même vous.
Tout peut-être pas, en fait, c'est toujours une très grosse aventure d'adapter au cinéma ou en série une œuvre quand elle coûte cher à adapter. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire que ça coûte très cher de tourner l'Empire en héritage, même si je l'ai écrit vraiment comme une œuvre audiovisuelle. Je l'ai même écrit de manière assez curieuse de ce point de vue-là, puisque avant d'aller voir un éditeur, j'ai d'abord rédigé ce que dans notre jargon, on appelle une bible de tous les personnages, c'est-à-dire plusieurs pages sur chaque personnage, ses défauts, ses faiblesses, ses désirs, d'où il va, où il veut aller, etc. Et j'ai écrit un traitement d'une soixantaine de pages qui est en fait un squelette de l'histoire. Et ça, c'est ce qu'on fait dans l'audiovisuel. On commence par préparer tout ce paquet artistique, et puis là, on commence à aller trouver des diffuseurs. Dans mon cas, j'ai été voir des éditeurs. Donc, vous voyez, j'ai utilisé la même démarche. Aujourd'hui, adapter l'Empire en héritage, ça suppose une coproduction internationale. Ça peut pas se faire uniquement sur le territoire français. Et donc, il faut aller trouver plusieurs diffuseurs potentiels dans différents pays pour pouvoir l'adapter. Voilà, sachant que j'ai un concurrent de taille, puisque Steven Spielberg a décidé de faire une mini-série sur Napoléon, mais pas sur son fils.
D'accord. Mais en même temps, vous pouvez trouver des capitaux anglais, parce qu'ils ont quelques petites choses à se faire pardonner. Ça peut marcher. Alors Serge Ayat, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première. Alors vous auriez pu passer dans apostrophe pour présenter l'Empire en héritage. Pardon, mais vous serez que dans Passion Classique.
Très heureux d'être là. Donc effectivement, comme vous venez de le dire, en fait cette madeleine, c'est une madeleine pour des millions de gens. C'était le rendez-vous de ma mère avec la télévision tous les vendredis. Et donc tous les vendredis,
à 21h30,
vers 21h30, on regardait cette émission. Qui avait la qualité d'être à la fois une émission très grand public et de très haute tenue. Et donc c'était possible à ce moment-là de faire encore des émissions comme ça. Et pour le coup, on était devant la télévision tous les vendredis et je me prenais à rêver qu'un jour, je serais parmi les invités. Alors j'ai mis beaucoup trop de temps pour écrire un premier roman et donc du coup ça n'arrivera pas, mais ça me donne la chance d'être là ce soir.
Alors, est-ce que justement c'est un but ça même dans votre métier, Serge Ayat, c'est-à-dire d'aider à faire vivre des films, de financer des films qui sont à la fois écrits de qualité et destinés à un public populaire, comme L'Arnaqueur aussi, comme
Oui, c'est
Intouchable en fait... aussi, qui a été un très très grand succès,
c'est
une belle comédie aussi.
Oui. Oui, en fait, mon métier de financier est un peu moins glamour que ça. Mon métier de financier, ça consiste à dire, si on arrive à financer une œuvre de cinéma qui touche son public, même si ce public est étroit, et si son coût est en rapport avec le potentiel commercial de ce public, même s'il est étroit, mais à ce moment-là, tout va bien. Le problème, c'est de tenter de faire un film commercial qui séduit très peu de gens, ou bien de faire un film pour un public très étroit qui coûte très cher.
L'idéal étant de produire un film qui coûte très peu cher et qui est vu par, je sais pas, comme il y a eu, comme Être et Avoir, enfin des films comme ça. Voilà. Alors, qui, tout d'un coup, on sait pas pourquoi, succès
énorme. Bien sûr. Moi, dans ce style-là, j'avais financé un film qui s'appelait La Première Étoile, je sais pas si vous vous en souvenez, qui est, une famille noire qui part au ski. Et donc, évidemment, c'est le prétexte à une comédie absolument déjantée et incroyable.
Oui,
voilà, qui était un tout petit film qui s'est vendu partout. Donc ça, c'est quelques belles surprises où, en fait, vous arrivez à rejoindre une œuvre de très grande qualité avec un public très large.
Serge Ayat, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. De Cécile B2000, musique d'Elmer Bernstein, film aussi à travers duquel beaucoup de jeunes enfants ont appris la Bible, finalement, puisque dans un pays plutôt catholique comme le nôtre, on est plus proche des évangiles que de la Bible, n'auront pas cette même culture que les Américains ou les protestants.
C'est vrai, mais bon, il raconte la Bible de manière, je trouve, assez œcuménique, Cécile B2000, même s'il y avait un vrai message religieux. Cécile B2000, il était vraiment totalement dans cette direction-là, de faire un film à message et d'évangéliser, et c'était vraiment son souhait. Je voulais proposer comme Madeleine, parce que moi, c'est avec les 10 commandements que j'ai compris que un jour il fallait que je fasse du cinéma absolument. Et donc c'est un film que j'ai découvert, je sais pas, quand je devais avoir 8 ans ou 9 ans, et il était sorti déjà depuis bien longtemps, hein. C'était une énième rediffusion, et j'ai dû le voir dans les années 70, j'ai dû le voir peut-être 20 fois au cinéma, et il est pas court comme film, hein. Il dure 3h40, et j'étais totalement fasciné par la magnificence de ce film. Je trouvais que ça représentait la quintessence de Hollywood, le kitsch, le
cinémascope,
un cinémascope, ouais. Des effets spéciaux absolument incroyables pour l'époque.
La mer rouge
qui s'ouvre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Elmer Bernstein, il a la trentaine quand Cécile B2000 lui confie la musique de ce film. Cécile B2000, en 1956, il est totalement à l'apogée de sa carrière, et Paramount, dont il est partie prenante, et aussi à l'apogée quasiment de la vie du studio. Et il va aller chercher un compositeur qui a 7 musiques ou 10 musiques à son actif pour lui demander de composer la musique de ce qui est présenté comme le monument du cinéma et le plus grand film de tous les temps, déjà à l'époque.
Ça, c'est les Américains. C'est
incroyable.
La grandeur de ce pays jeune, finalement.
Exactement. Ouais. Et en fait, Elmer Bernstein, ensuite, il fera plus de 200 musiques dans sa vie. Hein.
Ouais, ouais.
Mais là, il a livré une partition qui est incroyable, parce que si vous faites bien attention, vous allez vous rendre compte que chacun des très nombreux personnages des 10 commandements du film a sa propre musique et son propre thème, et même les lieux ont leur propre thème. Et donc, c'est juste incroyable. Vous avez ce qu'il faut de mélancolie, de force, de puissance, avec ce qu'il faut pour rappeler le péplum. Et donc, vraiment, quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'ai été scotché et ça m'a marqué. C'est-à-dire que j'ai dû y retourner le lendemain, au cinéma à l'époque.
Serge Ayat, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale. La guerre des étoiles en français, Star Wars pour les jeunes, c'est John Williams. Et ici, c'est l'orchestre philharmonique de Los Angeles, dirigé par Zubin Mehta. Alors, Serge Ayat.
Comme beaucoup de gens, je vis avec la guerre des étoiles depuis 1977.
Est-ce que vous avez vu le dernier ?
Oui, bien sûr. Oui. Et je l'ai même vu plusieurs fois, comme tout fan qui se respecte. Et en fait, je vis avec la guerre des étoiles depuis 1977... au rythme des différentes sorties des films ou des ressorties des films, que ce soit en salle ou que ce soit en DVD ou en Blu-ray ou en édition collector, je crois que je vais avoir à peu près tout ce qui existe. Et j'ai pas choisi, vous l'aurez noté, la musique d'ouverture de Star Wars que tout le monde connaît. Parce que moi, ce que j'aime bien dans Star Wars, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que George Lucas a réussi à récupérer tous les codes dramaturgiques de la mythologie et des tragédies grecques pour en faire un conte spatial. Et c'est vraiment transposé, c'est incroyable.
On pourrait même dire, Serge, si vous me permettez, qu'il s'est beaucoup inspiré, et John Williams aussi, de Richard Wagner, de la tétralogie, des légendes. Et quand vous parliez tout à l'heure que chaque personnage dans les 10 commandements a son thème, c'est le leitmotiv wagnérien. Donc,
absolument.
Tous ces compositeurs, d'ailleurs souvent juifs, se sont inspirés de Richard Wagner, qui ne les portait pas forcément dans son cœur,
C'est clair. Mais donc voilà, donc moi, ce qui me plaît beaucoup dans La Guerre des Étoiles, c'est effectivement qu'on retrouve tous les codes dramaturgiques qui font qu'une histoire fonctionne. Et à Hollywood, on vous dira volontiers qu'un héros n'est jamais aussi fort et aussi valable que son opposant est fort, contrasté et tout en obscurité partielle. Et là, on en a un exemple extraordinaire avec La Guerre des Étoiles, où en fait, le vrai héros, c'est le méchant. D'ailleurs, vous noterez que c'est quasiment le seul personnage à être présent dans les 6 premiers épisodes. Je parle pas du dernier, bien sûr.
Et c'est Hitchcock qui disait un film est réussi quand le méchant est réussi. Et son film préféré à lui, des siens, c'était L'ombre d'un doute, justement avec ce personnage, avec la veuve joyeuse, l'air qui revient, Joseph Cotten, qui est extraordinaire. Ouais. Justement,
c'est exactement ça.
C'est vrai.
C'est exactement ça. Et pour moi, La Guerre des Étoiles, ça aurait pu s'appeler la tragédie d'Anakin Skywalker, parce que c'est vraiment l'histoire de ce personnage. Et du reste, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, quand vous parliez de ce méchant, quand vous regardez Apocalypse Now, par exemple, vous suivez un héros, mais en fait, la seule chose qui vous intéresse, c'est qui il va rencontrer au bout et est-ce qu'il est vraiment méchant. Et c'est le colonel Kurtz. Et à ma petite échelle, dans l'Empire en héritage, Napoléon, en fait, c'est mon méchant. Parce que Napoléon a une part d'obscurité incroyable. Et ça c'est vrai. C'est-à-dire que tous les faits historiques le montrent. Napoléon a un côté obscur extrêmement marqué, malgré tout ce qu'il a pu réaliser. Et le confronter à son fils, c'est exactement ce qui se passe dans l'Empire contre-attaque, dont nous venons d'écouter la marche impériale.
Et dans les séries, souvent, ou les films, parfois, on adore voir triompher les méchants, dans certaines séries comme Dexter, comme ça, ou des séries politiques où on voit des hommes politiques particulièrement odieux, cruels, tordus, mais on veut que ça continue toujours.
Bien sûr, puisque le méchant crée le conflit crée l'histoire. Sans conflit, il n'y a pas d'histoire.
Oui. Serge Ayat, voici, allez, vous avez les droits à une quatrième petite madeleine musicale, que voici. Il était une fois dans l'Ouest, un des plus beaux thèmes du cinéma, et Ennio Morricone, génie pour vous, Serge Hayat?
Ah oui, c'est incontestablement un des plus grands compositeurs de musique de film qui ait jamais existé. Et celui-là, en plus, il est bien européen. C'est fou ce que ce genre de musique, en tout cas pour moi, peut être inspirante. Vous voyez, quand j'ai écrit la deuxième confrontation de Napoléon et son fils sur l'île de Sainte-Hélène, je me passais en boucle cette musique parce que je trouve qu'elle donnait la bonne tonalité à ce que je voulais écrire. Et donc, je trouve ça assez incroyable de l'écouter maintenant avec vous et en même temps que les auditeurs.
La musique, c'est toujours important de trouver des... Vous qui financez des films et des séries, est-ce que ce poste est donné à des gens qui... à de vrais artistes, et est-ce qu'on leur laisse la possibilité de s'exprimer comme on l'a laissé à... ou peut-être qu'ils l'ont prise, la possibilité de... au Nino Rota, au Ennio Morricone, au Michel Legrand?
Il y en a pas beaucoup qui ont ce niveau-là, et aujourd'hui, avec les contractions budgétaires sur les films, les petits films, je parle de ce qui se passe dans notre pays, la musique est souvent pas sacrifiée, mais c'est un poste qui passe après. Alors il y en a certains qui ont commencé à créer des fonds ou faire un peu de crowdfunding, c'est-à-dire faire appel au public, pour pouvoir financer une musique un peu plus solide, pour pouvoir faire en sorte que la musique puisse être composée avant et pas simplement après, au montage, à la va-vite. Et vous le voyez bien d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous avez plusieurs thèmes que vous retrouvez au travers d'un film, vous voyez bien que la musique a été particulièrement travaillée. À l'autre extrême, et d'ailleurs Ennio Morricone n'en est pas complètement exempt, ni Hans Zimmer d'ailleurs, qui est probablement le compositeur le plus convoité aujourd'hui à Hollywood, il se cite d'un film à l'autre.
Justement, vous avez choisi aussi Hans Zimmer, vous avez le sens de l'à-propos, Serge Hayat. Alors cette musique que nous allons entendre, c'est dans quel film? C'est Batman?
Oui.
Hein? Voilà, c'est ça.
Batman Begins.
Voilà. Alors voici donc la musique de Batman, Hans Zimmer. Batman Begins, et c'est la musique de Hans Zimmer, et vos yeux brillent, Serge Hayat. Pour vous, c'est l'un des meilleurs Batman?
Ah oui, alors en fait, la trilogie de Christopher Nolan a totalement ressuscité Batman. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à une époque où la plupart des studios font des blockbusters et des franchises à partir de super-héros parfois un peu loufoques ou grotesques. Je ne dis pas que j'aime pas ces films, mais ça reste quand même à chaque fois relativement basique. Avec Christopher Nolan, c'est pas du tout pareil. Christopher Nolan, il s'est emparé de cette licence Batman, qui a donc appartient à Warner, et il en a fait un héros extrêmement sombre, extrêmement torturé, et qui assume complètement le fait qu'il est torturé pour faire du bien, mais pas toujours que du bien. Et donc, là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de l'antagonisme entre le héros et le méchant. Là, en fait, on a un héros qui est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il est lui-même sa propre source d'obscurité.
Comme nous.
Comme nous tous. Mmh. Et c'est pour ça que c'est très réussi. Et en fait, dans ces films de Christopher Nolan, vous avez en permanence une alternance entre cette obscurité, cette mélancolie et également la violence de cette ville qu'est Gotham City. Et pour pouvoir accompagner la noirceur et l'ambivalence de ce héros, Christopher Nolan est allé chercher Hans Zimmer, qui a fait une musique qu'on vient d'écouter, qui accompagne exactement tout ce qu'on vient de se dire à l'instant. Et toute cette noirceur et cette ambivalence, elle est dans cette musique. Et au passage, si Hans Zimmer se produit à Paris à nouveau, courez le voir, parce que son show sur scène est incroyable. Hans Zimmer, il utilise à la fois des instruments classiques et de musique classique, et puis il compose ses propres instruments. Par exemple, à un moment donné, au milieu du show, il y a un type qui vient et qui tape deux barres de fer ensemble pour accompagner le reste de la musique. Et donc, il a réussi à inventer des tas de sonorités nouvelles qui viennent se greffer de façon assez harmonieuse avec des instruments plus classiques. Ils sont 50 sur scène avec des choristes. C'est vraiment un show exceptionnel.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Gustav Mahler aussi avait fait dans sa sixième symphonie, avait inventé des instruments aussi. Berlioz aussi. Enfin, oui, évidemment, sûr. Les grands aînés n'est pas parti de rien, et d'autres grands aînés ont aussi défriché avant lui. Et Morricone aussi, vous l'avez vu sur...
Ah oui, alors Morricone en concert, c'est incroyable. Alors je pense qu'il en donnera plus beaucoup. Donc si vous avez la question, il en donnera à peu près un par an en France. Il est tout petit, tout maigre, très vieux. Il doit avoir 80 et quelques années. Il est perdu sur scène. Il a juste sa baguette, il fonctionne de manière tout à fait symétrique. Donc il est tout droit, il a ses deux bras qui marchent de manière tout à fait symétrique. La musique s'éteint, la salle s'éteint, pardon. La musique commence et vous êtes totalement projeté à Monument Valley en un instant. Et vous voyez, et les chevaux, et les caches-poussières. C'est stupéfiant ce qu'il arrive à faire, Ennio Morricone, sur scène.
Serge Ayat, c'est le moment d'une autre page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
Vous écoutez Radio Classique. Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Serge Ayat, vous aimez L'Aiglon d'Edmond Rostand, cette pièce. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on n'appelait pas L'Aiglon comme ça.
Absolument. C'est Edmond Rostand, voilà, qui l'a appelé L'Aiglon.
Voilà. Absolument. Et Sarah Bernard qui l'a incarné, qui l'a immortalisé sur la scène d'un théâtre. Est-ce que vous aimez cette pièce et le style de Rostand?
Oui, je trouve que c'est pas ce que Edmond Rostand a fait de mieux. Et je préfère de très très loin Cyrano, bien sûr.
Ou Chanteclair aussi, c'est
absolument
très beau, Chanteclair.
Mais celle-là a le mérite d'exister, puisqu'en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est l'héritier d'un des plus grands hommes de tous les temps, et on ne connaît presque rien de lui. Alors, il n'y a pas grand-chose à connaître, vous allez me dire, parce qu'effectivement...
Il a quand même été empereur pendant...
Ah, il a été empereur pendant un très court moment.
10 jours, 10 ou 14
oui,
jours.
Absolument, entre le 22 juin 1815 et le 7 juillet 1815, voilà. Pendant que Fouché préparait la transition. Il faut savoir qu'à cette époque-là, tout le monde roulait pour son compte, perso. Et donc, en fait, à l'année où Napoléon II... a régné pendant quelques jours, il était même plus en France. Il était emprisonné à Schönbrunn, déjà. Donc en fait, on s'est servi de lui quelques jours parce qu'il fallait bien assurer un titre au pouvoir, et puis voilà.
Et Talleyrand, est-ce qu'il vous fascine ?
Énormément. Ça, c'est un des personnages clés de mon livre, de l'Empire en héritage, où là, je le dépeins tel qu'il était probablement vraiment.
Ce diable boiteux.
Diable boiteux, maître Machiavel, mais en fait, c'est pas ce qui me fascine le plus chez lui. Alors, le fait qu'il soit d'un machiavélisme incroyable et qu'il réussisse énormément de choses dans ce qu'il fait.
Mais c'est un génie politique.
C'est vraiment un génie du sens politique. Ouais. Mais c'est pas ce qui me fascine le plus chez lui. Ce qui me fascine le plus chez lui, c'est que cet homme, tout le temps, n'a été intéressé que par une seule chose, son bien-être personnel immédiat. Mais bien-être au sens propre du terme, c'est pas l'accumulation de richesses, par exemple. C'est juste son bien-être du moment. Boire un bon vin, bien manger, les bonnes choses de la vie, voilà, une jolie fille. Donc voilà. Et il a toujours.
C'est quelqu'un de sage, finalement.
Oui, tout à fait. Et il faisait.
On va pas lui reprocher, surtout en tant que Français.
Oui, c'est sûr. Mais il faisait également quelque chose que moi je fais dans le business, mais en tout bien tout honneur, bien sûr. C'est à chaque fois qu'il observe une situation, sa première question, c'est de se demander qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi dans cette nouvelle.
Mais est-ce qu'il a trahi la France? Ou est-ce qu'il a aidé la France? Est-ce qu'il a été un personnage plutôt positif ou négatif?
C'est très difficile à dire, parce qu'il a traversé des tas d'époques, et je suis pas certain qu'il ait eu finalement une influence aussi importante que ça. Parce que par exemple, quand en 1814, l'abdication de 1814, c'est Talleyrand, et l'abdication de 1815 de Napoléon, c'est Fouché. Donc ce sont les deux fossoyeurs, à une année d'intervalle, de l'Empire de Napoléon. Néanmoins, ils n'ont fait qu'anticiper ce qui serait arrivé de toutes les façons. C'est-à-dire que Napoléon ne pouvait pas lutter par rapport à toutes les puissances alliées, et ils auraient fini par avoir sa peau. Donc en fait, ils n'ont fait que l'anticiper pour se placer au bon endroit. Je suis pas sûr qu'ils aient tant aidé la France que ça, et l'un et l'autre. Je pense qu'ils se sont aidés eux-mêmes, bon, ce qui est déjà pas si mal.
Et Fouché, est-ce qu'il trouve grâce à vos yeux ?
Ah, pas du tout. Non, Fouché, c'est vraiment un être trouble. Et c'est d'ailleurs très étonnant. Vous voyez, ça fait partie des caractéristiques de Napoléon qui sont très étonnantes. On ne sait pas si c'est de la naïveté, du calcul ou de l'impuissance. C'est-à-dire que Napoléon se repose sur Talleyrand, il se repose sur Fouché, il sait que ce sont des traîtres. Et quand Napoléon revient pour les 100 jours en 1815, qui il va chercher pour se faire aider? Il va rechercher encore Fouché. Alors qu'il sait que Fouché n'a pas cessé de le trahir, et il le sait, il en a des preuves. Mais il va quand
même
le chercher.
Parce qu'il n'aimait peut-être pas les têtes nouvelles.
Peut-être aussi qu'il n'y avait personne d'autre.
Il vaut mieux avoir un diable qu'on connaît, plutôt qu'un diable qu'on ne connaît pas, comme dit
l'autre. C'est sûr.
Et c'est drôle parce que François Mitterrand, il me semble me souvenir que dans une interview, il disait qu'il préférait Fouché à Talleyrand. C'est d'ailleurs d'où le succès du souper de Briseville où notre cœur, notre esprit balance
hein,
entre ces deux visions.
Magnifique. Mais en réalité, c'est marrant que vous parliez de François Mitterrand au moment où on parle de Fouché et de Talleyrand. Parce que lui-même, François Mitterrand, il avait quand même une conception assez particulière et du pouvoir et de la manière de le gérer.
C'était un vrai homme de droite, comme vient de le dire Michel Rocard dans Le Point récemment, qui a été amené au pouvoir par la gauche. Donc ça montre toute la complexité du personnage.
Bien sûr, vous pouvez le dire aussi autrement. C'est un vrai homme de droite qui a vu qu'il y avait de la place à gauche.
Oui.
Et qui a été comme ça. Ouais. Et donc, vous voyez, je trouve que c'est très intéressant d'en parler en même temps. Et d'ailleurs, en même temps que Napoléon. C'est-à-dire que Napoléon, si vous regardez toute la carrière de Napoléon, son maître mot, c'est « je vais m'adapter aux circonstances et je vais voir comment les circonstances peuvent m'aider à aller plus loin ». Ça a été son maître mot tout le temps.
Mais c'est peut-être une forme de génie.
Ah mais certainement, c'est une forme de génie. C'est certainement une forme de génie. Et Napoléon n'a cessé de dire « ce sont les circonstances qui m'ont porté là ». Quelqu'un d'autre aurait été à ma place, au bon endroit, au bon moment, il aurait peut-être fait pareil. Napoléon le dit. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'être très indulgents avec l'aiglon, parce que le pauvre François, il n'était pas là, ni au bon moment, ni au bon endroit, ni dans les bonnes circonstances. Il a toujours eu tout faux.
Serge Hayat, vous avez choisi Bach, qui lui était au bon moment, à la bonne place. Serge Hayat, vous avez choisi Jean-Sébastien Bach, un extrait du clavier bien tempéré, c'est Vladimir Ashkenazy qui l'interprète, et là c'est le début de la fugue. Alors sur le début de la fugue, pouvez-vous clamer votre amour pour cette musique et dire peut-être aux auditeurs de Radio Classique pourquoi elle vous fascine ?
Alors c'est pas tant qu'elle me fascine, c'est que je trouve d'ailleurs que c'est très agréable de terminer sur Bach, parce que
moi, ça nettoie Bach, un peu l'esprit.
Oui, Bach me calme beaucoup. En fait, moi j'ai un esprit plutôt cartésien, et la musique de Bach, qui est très mathématique en fait, je la trouve extrêmement rassurante. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui vont vous dire oui mais elle est rassurante et donc très ennuyeuse, et moi je la trouve juste rassurante et apaisante. De la même manière que je vous ai raconté tout à l'heure comment j'ai écrit la première trame de l'Empire en héritage, et donc je me suis fixé un cadre en fait pour écrire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire vraiment le livre, j'avais en tête l'intégralité de ce qui allait se passer dans le livre, du début jusqu'à la fin, et de ce qui allait arriver à chacun des personnages. Et pour moi, le fait de mettre un cadre, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant, qui au contraire me libère à l'intérieur du cadre. Alors que pour d'autres, le cadre emprisonne. Et donc voilà, Bach me fait exactement cet effet, moi Bach me calme.
Le cinéma français, il a encore de beaux jours devant lui, Serge Hayat, le cadre des chaînes de télévision n'est pas trop contraignant pour la création, c'est ce qu'on entend.
Alors oui aux deux, c'est-à-dire que je pense que le cinéma français a de très beaux jours devant lui, on a un système qui a réussi à le préserver et à faire en sorte que c'est une des plus belles cinématographies d'Europe. Dans le même temps, c'est vrai que ce système repose beaucoup sur les chaînes de télévision, qui aujourd'hui ne sont plus très friandes de cinéma, puisqu'elles préfèrent les talk-shows, les émissions sportives, et puis surtout les créations originales, c'est-à-dire les séries. Et donc, il faut que le cinéma réinvente un peu son modèle économique pour continuer à être aussi beau qu'aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup, Serge Hayat.
Merci à vous.
D'être venu ce soir en direct dans Passion Classique. Merci aux auditeurs qui vous ont adressé leur message. Tiens, il y a un auditeur de Compiègne qui vous propose un film sur Chopin. Si vous êtes, il peut évidemment vous écrire. Serge Hayat Paris, ça arrive.
Ou par chez vous. Voilà. Il faut qu'il y ait du conflit dans son histoire.
Voilà. Merci également à notre réalisateur Yann Levray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet. Alors je l'ai annoncé hier, mais en fait c'est ce soir. Ce soir, Laure Maison à 20h vous présentera le concert donné par deux élèves de la classe d'excellence de Gauthier Capuçon, qui a été enregistré hier soir à la Fondation Louis Vuitton. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de la pianiste Emmanuelle Jaspard. Tout de suite, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée sur Radio Classique.